OK, on va commencer notre 27e leçon dans notre série sur le péché, les 10 commandements, la grâce. Aujourd'hui, on va regarder le 7e commandement de Dieu et on va le regarder en trois leçons différentes. Donc, la première, ça va être sur quelques observations sur l'institution du mariage. Et ensuite, on va regarder dans une autre leçon ce qui est requis et ce qui est défendu par le même commandement. Et la troisième leçon, ça va être des applications pratiques sur le 7e commandement. Pourquoi je fais trois leçons sur le 7e commandement? Parce qu'on vit à une époque où le 7e commandement a énormément de manquements et on est entouré de choses. On a besoin de se faire rappeler toutes ces vérités-là. Alors, les quatre premiers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers Dieu lui-même. Le premier concerne qui nous devons adorer. Le deuxième commandement de Dieu concerne comment nous devons adorer. Et le troisième, que nous devons le craindre et que nous ne devons pas utiliser son nom en vain. Quant au quatrième, un jour sur sept lui soit pleinement consacré pour l'adoration, qu'elle soit individuelle, familiale ou collective, et aussi pour le repos. Les six derniers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers notre prochain. Ce sont les six piliers de l'ordre social du monde. Et c'est pas seulement des lois, mais aussi de l'amour. Alors, le cinquième commandement concerne nos devoirs envers nos parents et les autorités en général, qui nous disaient « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le sixième concerne nos devoirs envers la vie humaine et la protection de la personne. Exode 20, 13, tu ne tueras point. Le septième concerne nos devoirs envers la sainteté de nos corps, du mariage et de la famille. Et il se trouve dans Exode chapitre 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Alors, comme on a dit tantôt, on va consacrer trois leçons. La première sur les observations générales sur le mariage. Ensuite, la deuxième, ça va être ce qui est requis et défendu par le commandement la semaine prochaine. Et l'autre semaine ensuite, ça va être quelques applications pratiques concernant ce même commandement-là. Alors, la première, aujourd'hui, on va regarder quelques observations générales sur le mariage. Alors, la première chose qu'on se doit de se rappeler, c'est que le mariage est une institution divine. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera « femme » parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, on se rappelle que le mariage, ce n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine et même une institution d'avant la chute. Parce que c'est dans le chapitre 2 et la chute a lieu seulement au chapitre 3. Alors, c'est une autre chose qu'on se doit de se rappeler concernant le mariage, c'est une alliance solennel et perpétuel. On le voit dans deux passages, il y en a peut-être plus que ça, mais on en a choisi deux. Ézéchiel, chapitre 16, verset 8. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Alors, on sait qu'ici, c'est vraiment symbolique du mariage du Seigneur lui-même avec Israël, mais on voit qu'il dit, « concernant son mariage, je fis alliance avec toi. Et Malachie, chapitre 2, verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alors, quelle conclusion qu'on peut tirer de ces textes qui introduisent la dimension religieuse dans l'engagement du mariage, sinon que Dieu est directement concerné. Il use de son autorité légitime pour s'intéresser au mariage du couple et exercer un droit de regard, plus pour rappeler aux époux le sérieux de leur engagement, l'exclusivité et la permanence de leur union et l'extrême gravité de toute abrogation de l'alliance. Alors, troisième chose qu'on se doit de se rappeler, c'est une alliance entre un homme et une femme. Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Quatrième observation, c'est une alliance qui oblige les parties à un amour et à un respect mutuel. Éphésiens chapitre 5, versets 22-25, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, un mariage selon Dieu, c'est une alliance à la fois humaine et divine qui engage solennellement un homme et une femme à s'unir l'un à l'autre totalement, intimement, exclusivement et pour la vie, avec l'approbation, la bénédiction, la présence et l'aide du Seigneur. Alors, une autre observation qu'on se doit faire sur le mariage. Le mariage est déclaré selon les Saintes Écritures comme étant honorable et sacré. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. John Newton a dit, le mariage a été et est, pour moi, la meilleure et la plus précieuse des bénédictions temporelles. Ceux qui ont lu la biographie de John Newton, on voit que sa femme a joué un rôle extrêmement important dans sa vie. Quand il était sur les bateaux négriers, il pensait à sa... C'est vraiment la pensée de sa fiancée, de la femme qu'il aimait, qui l'a sauvée de bien des malheurs. Alors, quand il dit ça, là, après qu'il s'est marié avec elle, pour lui, ça a été vraiment une des plus grandes bénédictions temporelles pour lui. Autre observation, le mariage est attaqué maintenant de toutes parts par les ignorants et les méchants. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, l'Église catholique a souvent défendu la position que du non-mariage des prêtres, alors on peut regarder ce que disent les Écritures. Alors, les Écritures nous apprennent que l'apôtre Pierre était marié, ainsi que les autres apôtres. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 14, « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. » Quelqu'un qui a une belle-mère, d'habitude, c'est parce qu'il est marié. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? » Alors on voit qu'ils emmenaient leur femme avec eux autres quand ils voyageaient. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2 à 4, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé de sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abandonné, ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. » Donc, il est de notre devoir de s'opposer à tous ceux qui veulent désacraliser ou détruire l'institution divine du mariage. Autre observation concernant le mariage est une source de beaucoup de bénédictions. Alors, il y a trois classes de bénédictions qui sont reliées au mariage. La première classe, c'est les bénédictions qui sont liées aux époux et épouses eux-mêmes. Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, les mariés se conseillent mutuellement dans la perplexité, se donnent de la protection et de la sécurité, sont les gardiens de leurs intérêts mutuels et trouvent satisfaction et joie l'un dans l'autre. Certains avancent l'argument qu'il existe de nombreux mariages malheureux pour justifier leur position de s'opposer au mariage lui-même. Plusieurs mariages ont été fondés sur des motifs malhonnêtes et égoïstes, par exemple, le désir de prestige ou de l'argent, une importance trop grande accordée à l'apparence physique, de trop grandes incompatibilités de goût, d'habitude, de sentiment et même de principe. Alors, comme on peut le lire dans Amos, chapitre 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Alors, l'intempérance, bien souvent, et les problèmes d'argent ont été la source de nombreux divorces. Alors, ceux qui disent que dans le fond, c'est le mariage qui amène le malheur. C'est pas vrai. C'est un mariage non vécu selon les principes bibliques. Alors, on a vu la première classe de bénédiction qui est reliée au mariage. La deuxième classe, c'est que le mariage apporte des bénédictions liées à l'Église de Dieu. Donc, ça amène que l'homme et la femme peuvent éviter des péchés. Comme par exemple 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Alors, bien entendu, on le sait, le mariage évite beaucoup de péchés, d'impudicité. Éphésiens, chapitre 5, verset 28, nous montre que le mariage, ça nous donne l'occasion d'exercer l'amour. Verset 28 à 30, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Autre bénédiction qui est tirée du mariage, l'éducation des enfants. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Autre catégorie de bénédictions, les bénédictions à l'humanité en général. Le mariage assure la sécurité, le bien-être et la santé des enfants. Il est le ciment social et le premier endroit où l'enfant apprend à contrôler ses désirs, ses passions et la discipline. Et on le voit dans les sociétés nord-américaines et occidentales. Quand le mariage, l'institution du mariage commence à se détériorer, on voit le tissu social commencer à se briser. Alors vraiment, quand on dit que c'est un ciment social, quand, à l'heure actuelle, à cause du nombre de multiplications des divorces, on voit les enfants, qu'est-ce que ça donne comme résultat aussi. Ils n'ont pas de parents, leur santé se détériore et bien d'autres choses encore. Maintenant, on va parler maintenant des devoirs qui sont liés au mariage. Donc, bien entendu, l'amour. Mais l'amour comme sentiment et comme principe, pourquoi on fait une différence? Parce que quand on aime quelqu'un au début de notre vie de mariage, autrement dit, c'est l'aspect souvent physique qui prend le dessus. Ça, c'est le sentiment, on aime quelqu'un. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens, après un certain temps, dès qu'ils se rendent compte que le désir n'est plus là, ils confondent ça avec l'amour. L'amour, c'est, oui, c'est ça, mais c'est aussi le principe de l'amour. Le principe de l'amour, c'est plus quand quelqu'un comprend que l'amour, c'est un geste de la volonté, il arrête de dire, ben, ma femme ne me plaît plus, donc je me sépare. Alors, il reste que c'est un. Il faut que tu décides de l'aimer, que tu fasses tous les gestes nécessaires pour y arriver. Alors, l'amour, c'est un devoir qui est lié au mariage, non seulement comme sentiment, mais aussi comme principe. Proverbe chapitre 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Colossiens chapitre 3, verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'expérience qui convient, l'extérieur, c'est-à-dire qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc l'amour comme sentiment, comme principe, c'est un des devoirs liés au mariage. Deuxième, la fidélité. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc les maris doivent aussi veiller à la protection, la réputation, la santé et le confort de leurs épouses et de leurs enfants. Troisième devoir qui est lié au mariage, le respect et la soumission de la part des épouses. Colossiens chapitre 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Bien sûr, il faut mentionner qu'il ne s'agit pas d'une soumission servile comme celle d'un esclave ou de celle des enfants vers leurs parents, mais bien une soumission d'une compagne. Autre devoir qui est lié au mariage, s'honorer mutuellement. 1 Pierre, chapitre 3, verset 5 à 7. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, Montez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, autre point, autre observation concernant le mariage, c'est que le mariage accroît le bonheur et lorsqu'il est vécu, bien entendu, bibliquement. Alors, le grand réformateur, Jean Calvin, disait beaucoup de bien de son épouse. Après le décès de celle-ci, voici ce qu'il déclara. « Je suis séparé de la meilleure des compagnes. Elle m'aurait certainement accompagné dans les pires épreuves, comme l'exil, la grande pauvreté et même la mort. Durant toute sa vie, elle fut une aide précieuse pour moi et m'a soutenu et encouragé dans l'accomplissement de mes devoirs. Elle n'a jamais été pour moi une entrave, si petite soit-elle. » Alors bien souvent, quand on veut parler de l'idéal de la femme pour la conduite de sa vie, on utilise le passage de Proverbe 31, des versets 10 à 31. Ça serait à méditer. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tient la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Il y aurait vraiment toute une étude à regarder comment les Écritures considèrent la femme idéale. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bien entendu, les devoirs de l'homme envers la femme sont aussi élevés, mais ce n'est pas détaillé dans des chapitres autant qu'ici, dans tout ramassé. Mais on sait que les Écritures parlent beaucoup du sujet. Et la manière dont les Écritures en parlent, c'est que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, les standards sont vraiment aussi hauts que Proverbe 31. Alors, autre dernier point, c'est le devoir du chrétien de travailler à maintenir de bonnes lois sur le mariage. Alors, on le sait aujourd'hui, beaucoup de gouvernements commencent à vouloir passer toutes sortes de lois, mariage entre deux femmes ou deux hommes. C'est le devoir, notre devoir à nous, de chercher par tous les moyens qu'on peut à maintenir les bonnes lois concernant le mariage. Deutéronome, chapitre 8, verset 11. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Nous devons veiller à ce que notre pays conserve des lois bibliques concernant le mariage. » Alors, j'ai mis quelques applications et ensuite, j'ai fait un petit texte que j'ai trouvé intéressant parce que, pourquoi on va le lire ensemble, parce que c'est des choses que j'ai vécues dans des églises, des gens qui considèrent que une simple relation entre un homme et une femme constitue un mariage, ou une entente verbale entre un homme et une femme constitue un mariage. On pense que ça n'existe pas, j'en ai connu personnellement. Alors, c'est important de faire la distinction, de savoir qu'est-ce que c'est un mariage. Sinon, si on ne fait pas ça, les gens partent dans toutes sortes de directions et c'est des inventions purement humaines. Alors, on va commencer par les applications, ensuite on lira le texte. Rappelons-nous que l'institution du mariage est d'origine divine et qu'elle a été donnée à l'homme pour son bonheur. Deuxième application, connaissons bien tout ce que la Bible enseigne concernant le mariage. C'est une alliance solennelle, perpétuelle et honorable. Implorons le Seigneur de nous donner les grâces pour pratiquer fidèlement ses enseignements. Troisième application, remercions le Seigneur pour le mariage. Il est une source de bénédiction pour les hommes et les femmes, pour l'Église de Dieu et pour la société en général. Quatrième, accomplissons les devoirs qui sont liés au mariage, amour, fidélité, respect et honneur. Alors, on va lire le petit texte avant de terminer. Alors, c'est un texte d'Henri Blocher que j'ai pris sur Internet qui parle du fait, qu'est-ce qui constitue un mariage? Le titre, c'était « Faut-il vraiment passer devant le maire? » Pourquoi cette question? Tout simplement parce que même au sein du christianisme, des conceptions de plus en plus calquées sur les a priori du monde sécularisé laissent à penser que le passage devant le maire n'est qu'une formalité désuète et facultative sans lien solide avec la réalité de l'union conjugale. Dans ce climat, les chrétiens qui se réclament de l'Écriture devraient être amenés à refuser deux fausses conceptions. La première, la relation sexuelle fait le mariage. Je me souviens très bien d'un couple, d'un individu à Sherbrooke, un homme, qui considérait que parce qu'il avait, il avait lu ça quelque part dans un verset, qu'à cause qu'il y avait eu relation entre un homme et une femme, relation sexuelle, il croyait que ça constituait le mariage. Alors, il faut vraiment défaire ces choses-là parce que ça l'emmène les gens dans toutes sortes de fausses conceptions. Alors, la Bible enseigne clairement que la relation sexuelle, autrement dit l'union charnelle, n'est pas le mariage, même si elle constitue un événement important aux yeux de Dieu et marque les personnes en cause. Preuve en soi, cette disposition donnée par Dieu à Israël. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas mariée et qu'il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges, Exode 22, versets 16 et 17. Il découle de ces versets que, premièrement, les fiançailles et le mariage dûment contractés sont les préliminaires normaux à l'union sexuelle. Deuxièmement, que la relation sexuelle à elle seule n'est pas le mariage. Troisièmement, que le mariage n'est pas la régularisation automatique d'un partenariat sexuel de fait, puisque le père de la jeune fille peut s'y opposer. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 et 17, ne dit pas autre chose. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée avec un seul corps, forme un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ceux qui entretiennent des relations sexuelles avec une prostituée est une seule chair avec elle, mais il n'y a pas de mariage pour autant. Cette relation pervertie constitue au contraire, pour celui qui s'y livre, un péché contre son propre corps, dans le verset 18, et contre Dieu, dans le verset 15. La deuxième erreur, le mariage est un engagement privé. Alors ça aussi, des gens s'aiment ou disent s'aimer, ils se rencontrent tous les deux, puis ils s'engagent l'un envers l'autre verbalement, sans témoin, sans approbation sociale, sans approbation d'une église ou quoi que ce soit. Et bien sûr, c'est très facile de défaire ce genre de mariage-là quand les gens croient vraiment qu'il y a un mariage. Et on pense que c'est pas juste des théories, c'est des choses réelles qui se passent dans la vie de tous les jours. Des chrétiens qui avaient plusieurs années de vie chrétienne, qui qui m'ont avancé des choses semblables. Tu fais le saut, là, des fois. Alors, il faut savoir comment leur démontrer que ce que, à cause qu'ils ont vu un verset qui semble vouloir dire une chose, il faut que tu leur montres l'ensemble des Écritures et que ce n'est pas un véritable mariage, sinon. Alors, plus attrayante et plus subtile que la première, cette conception admet que la relation sexuelle n'est pas le mariage, mais définit le mariage comme l'échange de promesses entre deux personnes qui s'aiment et qui veulent, devant Dieu, unir leur vie. Un engagement à huis clos, en somme, et sans témoin. Les tenants de cette idée, se fondant sur des passages comme Malachie 2,14, Ézéchiel 16,8 ou Proverbe 2,17, voient le mariage comme une alliance, un contrat entre l'homme et la femme. Pourquoi donc intervenir, monsieur le maire ou monsieur le pasteur? Comme nous allons le démontrer, la Bible enseigne que le mariage authentique ne saurait se restreindre à un engagement clandestin, même s'il est sincère. Alors, l'engagement d'alliance qui constitue le mariage peut-il être simplement privé entre deux personnes ou bien doit-il avoir un caractère social, objectif, tel que le passage devant le maire? Disons d'emblée que nous ne trouvons pas dans l'Écriture de 11e ou de 614e commandement qui prescrivent « tu passeras devant le maire pour te marier ». Deux raisons à cette absence. Il n'y avait pas de passage devant le maire dans les bourgades d'Israël ou même dans les cités gréco-romaines. La Bible n'offre pas d'exposé systématique sur l'institution et les procédures matrimoniales. Il s'agira donc de dégager l'enseignement implicite des mentions éparses qui se rapportent à notre thème. Voici trois leçons qui s'imposent avec clarté. La première, la Bible appelle mariage ce que l'on appelait de ce nom dans la société israélite et dans la société gréco-romaine. Lorsque la Bible parle de l'origine du mariage, de son institution par Dieu, Genèse 2, Matthieu 19, versets 4 à 6, de certaines règles de fonctionnement, elle évoque une réalité sociale connue de tous. Dieu parle à des gens qui savent ce qu'est le mariage. Et de fait, dans toutes les cultures, le mariage ne se résume pas à un engagement privé. Dans la société israélite, l'engagement des époux avait un caractère public qui regardait la collectivité tout entière. En voici quelques preuves. Premièrement, le rôle déterminant des parents dans le choix d'un conjoint, Genèse 21, 24, 38, verset 6, Juges 14, 1 à 10. Il s'agissait en général d'un contrat entre familles plus qu'entre deux individus. L'élément social est donc clairement impliqué. L'intervention des anciens en cas de débat sur la virginité de l'épouse, Deutéronome 12, versets 13 à 21, expose ce que peut faire un mari qui prétend que sa femme n'était pas vierge lorsqu'il l'a acquise, qu'il aille trouver des anciens dont la fonction est analogue à celle des mères de nos communes. L'affaire n'est donc pas du seul domaine privé. Les rites, pratiques éminemment sociales. Une célébration de mariage donne lieu à une fête, au scénario bien réglé. Jésus évoque ses réjouissances publiques dans plusieurs paraboles. La dot que le mari versait à la femme, à la famille de la fiancée. Cette coutume, même si elle a donné lieu à des abus, n'était pas comprise comme une transaction financière réduisant la femme au rang d'objet. Il s'agissait plutôt d'une garantie de sérieux donnée à l'épouse et à sa famille et d'une consolidation de l'engagement du mari. En dépit des coutumes particulières propres à chaque culture, la société israélite, comme les autres, prennent donc soin de conférer au mariage une légitimité sociale objective par l'intervention de tierces personnes, parents, amis, anciens, etc. Des textes comme celui de Genèse 24 montrent que, dès les temps reculés, la société faisait très nettement la différence entre une relation sexuelle illégitime et l'état dûment enregistré de personnes unies par le mariage. Il faut même noter qu'en Israël, le pacte social, la partie juridique de l'union conjugale avait lieu au moment des fiançailles. C'est à ce moment que la dot était versée. Toutefois, l'union charnelle n'était consommée qu'après la célébration publique des noces à la fin de la période des fiançailles. Alors, il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Matthieu 1, 18 à 25, Genèse 29, 33 et Deutéronome 22, versets 23 à 24. Deuxièmement, le lien conjugal, une fois établi, fait partie des réalités sociales dont le magistrat a la surveillance. C'est une affaire qui intéresse le droit. Le texte le plus frappant est celui de Romains 7, 2. Il est dit que la femme est liée à son mari par loi, légalement. Cette dimension juridique explique qu'en Israël, l'adultère était puni comme un crime. Les magistrats avaient pour mandat de mettre à mort les adultères, même en l'absence de la plainte de la part du mari trahi, conjoint trahi. Deutéronome 22, 22, Jean chapitre 8, versets 3 à 5. Si l'état du mariage est par nature sous le regard du magistrat, s'il se trouve dans le champ de sa compétence, l'entrée dans l'union conjugale ne peut échapper à son contrôle. Il faut que l'engagement des époux soit pris devant lui. Ces derniers concluent alliance non seulement devant Dieu, qu'ils le sachent ou non, mais aussi, selon la volonté de Dieu, devant le magistrat, qui a reçu autorité de la part de Dieu pour veiller au bon ordre de la vie sociale dans ses aspects externes, dont le mariage fait partie. Le mode de passage devant le magistrat peut varier. Dans certaines sociétés, on se contentera de la simple notoriété. Le magistrat est averti par la rumeur publique qu'il juge suffisamment net pour considérer le mariage comme contracté devant lui. Le magistrat peut aussi avoir un représentant. Dans nombre de cultures, le prêtre ou le pasteur sert de représentant au magistrat. C'est encore le cas en Israël où les Juifs se marient devant le rabbin. Aux États-Unis, le ministre du culte a une licence particulière pour célébrer les mariages. Dans le système français, c'est en se présentant en personne devant le maire que les époux officialisent leur union. Cette procédure ne révèle pas d'abus de pouvoir de la part du magistrat, puisque par essence, le mariage est une relation à caractère social et objectif. Troisième observation, le sens biblique du mariage et du corps. Selon la définition biblique, le mariage est l'union volontaire de deux corps en une seule chair dans la perspective de la durée. Le mariage n'est pas l'union de deux cœurs en une seule âme. On fait souvent là une confusion. C'est sûrement l'intention divine que l'union de cœurs s'exprime dans le cadre du mariage, mais ce n'est pas cette union qui définit le mariage. Dans la pensée biblique, le corps représente bien plus que les 40 à 80 kilos que nous pouvons peser. Le corps, c'est tout notre être au monde, notre maison, notre statut économique, nos moyens d'existence, notre situation sociale, notre nom. Ainsi, le mariage doit être conçu comme l'union de deux corps dans ce sens élargi. Il inclut l'union charnelle, mais aussi l'union économique, sociale et aboutie à la formation d'une seule cellule de la société. Le péché de débauche, que Paul censure, représente une division à l'intérieur de l'entité corporelle. Fuir la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Et il donne comme conclusion: si certains chrétiens bien intentionnés ne perçoivent pas le caractère social objectif de l'union conjugale, c'est qu'ils sont victimes, d'une part, d'une conception erronée du mariage qui confond l'amour qui s'exprimera dans le mariage avec le mariage lui-même, d'autre part, de l'individualisme moderne qui, au fond, refuse l'appartenance à la société. Or, on ne peut faire fi de cette appartenance en prétextant que l'essentiel, c'est notre relation directe avec Dieu. Car s'il est vrai que l'homme ne peut se réduire à un élément du tout social, il est néanmoins membre de ce tout, de ce corps, avec les droits et les devoirs de l'appartenance. La soumission au magistrat est comprise dans ses devoirs. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait Pascal. Que ceux qui ont sérieusement l'intention de construire leur vie à deux ne se laissent pas prendre au piège de la coexistence marginale, s'imaginant que la sincérité et l'intensité de leurs sentiments offrent une garantie suffisante à leur union future. Non, nous ne sommes pas des anges, mais bien des humains, auxquels Dieu offre les règles et les garde-fous du jeu social comme un soutien providentiel de notre inconstance naturelle. Romains 13, versets 1 à 7, 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Prendre à témoin nos familles, nos amis, notre Église et M. le maire de notre engagement mutuel, c'est non seulement agir selon la volonté de Dieu, mais c'est aussi sceller un lien plus fort qui se révélera comme une aide bienfaisante dans les jours où nos bonnes résolutions initiales, nos sentiments et nos serments de fidélité seront testés dans le creuset de la vie ordinaire. Alors, que l'Éternel soit béni, loué et glorifié pour ses innombrables grâces. Amen.